Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large sur Jacques Prévert, poète visuel et fabricant de petits plats dans les grands, avec Carole Auroué, Charlotte Garçon et bien entendu un raton laveur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Après Franck Borzégui, l'anarchiste poétique la semaine dernière, Plan Large se penche aujourd'hui sur un poète libertaire, Jacques Prévert. Et ça commence mal parce que Prévert n'aimait pas le terme de poète, parce que c'était une étiquette. Les poètes, je m'assois dessus, les poètes, ça sort de Sciences Po, disait l'homme libre, révolutionnaire, antimilitariste et anticlérical, l'homme contre résolument. Dans Plan Large, c'est bien sûr au Prévert scénariste, dialoguiste, peintre d'histoire pour le cinéma que nous allons nous intéresser, car avant l'immense succès populaire et international de Parole depuis sa parution en 1946, avant d'être l'auteur du Cancre et de Pourfaire le portrait d'un oiseau qu'on a tous appris à l'école, Jacques Prévert fut la star des scénaristes français des années 30 et 40, le seul que tout un chacun peut associer au plus grand film de cette période. Un jour, le cinéma s'est mis à parler Prévert, comme disait le scénariste Jean Oranche. Cette film signé Carnet Prévert, bien sûr, de Jenny aux portes de la nuit, en passant par Drôle de drame, Le quai des brumes, Le jour se lève et Les visiteurs du soir, mais aussi de nombreuses collaborations avec les plus grands cinéastes de son temps, Jean Renoir, Jean Grémillon et d'autres. Au total, une centaine d'écrits scénaristiques plus ou moins achevés, la majorité tournés, d'autres détournés et des dizaines qui n'ont jamais été réalisées, tout un cinéma invisible qu'une universitaire s'est donné pour mission depuis 20 ans d'exhumer et d'étudier. Cette éminente prévertologue, prévertisatrice et généticienne de ses scénarios, c'est Carole Auroué, autrice de nombreux ouvrages et études à son sujet, dont l'an dernier, pour le 40e anniversaire de sa mort, Prévert et le cinéma. Avec elle, et en attendant la sortie en salle mercredi prochain d'une rétrospective de 12 films et 5 courts en version restaurée, Plan Large vous invite à écouter la langue des films de Prévert, d'un oiseau rare au roi et loin. Oiseau. En fin d'émission, Charlotte Garçon nous parlera d'un autre drôle d'oiseau, drôle de film, merveilleusement insolent, immoral, en un mot, libre, Sérénade à 3 d'Ernst Lubitsch, qui ressort également mercredi prochain en version restaurée. Bonjour Carole Auroué.
Bonjour.
Jacques Prévert, le chantre des enfants qui s'aiment, c'est un véritable enfant de cinéma, comme on dit maintenant. Il est né 5 ans seulement après le cinématographe, il est né en 1900, et il a passé toute son enfance à voir des films dans ce qui n'est pas encore les salles de cinéma telles qu'on les connaît, et puis plus tard au cinéma du Panthéon, aux salles de l'avenue des Gobelins. C'est un enfant de cinéma.
Oui, véritablement un enfant de cinéma. C'est un petit garçon qui a été tout de suite frappé, happé par le cinématographe et qui aimait particulièrement pratiquer l'école buissonnière pour se rendre en effet dans les salles de cinéma qu'il fascinait. Et il était aussi fasciné par tout le spectacle qu'il y avait autour de la projection, en l'occurrence les bruitages, notamment, se souvient-il dans ses rares mémoires enfance, le personnage qui, avec un lasso et un chapeau, interprétait et faisait les sons du cow-boy qu'il voyait à l'écran. Donc voilà, il y a toute cette fascination qu'il a marqué enfant et qui lui a très certainement donné envie de travailler pour le cinéma.
Et ce qui l'intéressera toujours dans le cinéma, je disais qu'il n'aimait pas les étiquettes officielles, le grand art, tout ce qui était labellisé, c'est évidemment ce côté forain, populaire qu'il revendiquera toujours.
Oui, tout à fait. Ce qu'il aime dans ce nouveau moyen d'expression qui a quasiment son âge, c'est son caractère forain et extrêmement populaire et dénué d'intellectualisme. Ça, c'est quelque chose qui lui plaît évidemment énormément.
Ce qui fait que quand il va se lancer dans l'écriture cinématographique, vous avez exhumé, hein, je l'ai dit tout à l'heure, de nombreux textes, et c'est certainement pas fini, il doit en rester quelque part dans des malles, dans des greniers. Il se lance dans ce que vous appelez des ciné-textes, des projets de cinéma a priori totalement irréalisables, ou alors en dessin animé.
Tout à fait. En fait, Prévert écrit finalement assez tard parce qu'il fait ses humanités dans la rue, il engrange d'abord auprès des surréalistes et puis ensuite auprès du groupe Octobre. Et en fait, à la fin des années 20, alors qu'il a quasiment une trentaine d'années, il commence à écrire des ciné-textes. Alors, je les ai qualifiés moi-même de ciné-textes parce qu'il me semblait manquer un mot pour les définir. C'est véritablement des écrits de poète, mais dans le sens de poète d'innovation, d'action, de création, qu'il écrit visiblement en se cachant rue du Château durant la période surréaliste. Et c'est d'ailleurs Georges Chadoul hein, qui parle de ces fameux cahiers de Prévert que nous n'avons pas retrouvés.
Qu'on aurait retrouvés sous la moquette, dit la légende.
Retrouvés sous la moquette, mais nous ne les avons jamais retrouvés. Et il s'essaie, effectivement, pour le cinéma. Donc ça donne des textes relativement courts, effectivement peu réalisables avec les moyens techniques de l'époque, si ce n'est sous la forme de dessins animés. Et je vous donne un exemple. Il imagine une pieuvre qui va se mettre des bougies dans les tentacules et devenir un lustre. Effectivement, ça aurait été difficile à porter à l'écran. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il s'essaie, il tente, il est innovant, il est poète. Et c'est aussi tout un vivier d'idées, de personnages qu'il va pouvoir réutiliser plus tard dans son cinéma qui va devenir visible et qui va pouvoir être porté à l'écran.
Alors ce qui est très paradoxal, c'est qu'il commence à écrire au moment où le cinéma devient parlant et avec ses amis du groupe surréaliste, il s'en méfie énormément du cinéma parlant. Ils sont à deux doigts de dire que le cinéma est en train de mourir parce qu'il se met à parler. Alors pour celui qui va être un des plus grands dialoguistes et très prolixe dans sa carrière cinématographique, c'est tout à fait étonnant.
Oui, c'est tout à fait étonnant, mais au premier abord, j'ai envie de dire, parce que finalement, ça ne l'est pas tant que ça. Alors, il y a ce parallélisme avec Prévert et le cinéma. Ils naissent quasiment en même temps, vous l'avez dit, 1895 et 1900. Et Prévert va se mettre à écrire pour le cinéma au moment où le cinéma va être parlant. Il va se mettre à écrire à ce moment-là, à la fin des années 20, donc. Et ça ne me semble pas si paradoxal que ça, finalement. C'est-à-dire que Prévert et ses amis surréalistes, notamment, et je pense particulièrement à Desnos, envisagent ces nouveaux moyens d'expression comme quelque chose, ben effectivement, de nouveau. Donc on va apprendre à écrire autrement, on va apprendre à créer autrement, on va présenter les sujets différemment. Et en fait, la crainte de Prévert et la crainte de ses amis surréalistes, c'est qu'avec le passage au parlant, le cinéma ne devienne qu'une pâle adaptation de la littérature, qu'on adapte des romans, par exemple, qu'on fasse une sorte de théâtre filmé et que ça devienne très réaliste et que finalement, on n'utilise pas les potentialités de ce nouvel art.
Écoute mon vieux, ils savent que je suis pas rouge-péteur, alors ils s'en profitent, c'est du couru.
Ils sont durs.
Oh là là, mais je trouve ça formidable quand même, écoute. Pourquoi c'est-il défendu de chanter quand on travaille? Qui ça dérange, je te le demande?
Pas moi.
Ah mon vieux, pour ça, il y a du pour et du contre.
Du contre, tu me fais rigoler, je te jure que si j'étais le roi, moi ça barberait un peu, tout le monde chanterait, le boulot n'en irait que mieux. Ça serait du coup humain, mon vieux.
Que tu dis?
Oui, que j'ai dit. Tiens, regarde, c'est comme pour le sport. Eh ben le sport, mon vieux, regarde dans les autres boîtes, ils font du vélo, ils font de la course à pied, ils font du football. Ici, que pourri. Ah, oh, t'aurais pourtant pas plus mal balancé que les autres, non, dit sans rire. 1 358 447. On a gagné, les gars. On a 1 350 000. Non, je veux dire, on a gagné 10 000 francs.
On a gagné 10 000 francs?
Oui.
T'es sûr?
Ah, puisque je te le dis.
Alors, combien ça fait chacun, ça?
Attends, allez, ça fait des clous, moi.
Ça fait des clous, mais si on garde de l'argent pour un projet collectif, évidemment, ça fera beaucoup. C'est Pierre Larquet qui comptait l'argent, hein, si je ne me trompe pas, et c'est Fernand Gravé qui vituperait contre les conditions de travail dans cette usine. On n'a même pas le droit de chanter, c'est une rareté, signé Richard Potier en 1934. Si j'étais le patron, on en avait parlé dans Plan Large, quand le film était sorti en DVD en avril. C'est un des films qu'on va pouvoir découvrir dans cette rétrospective. Prévert fait son cinéma. Alors là, c'est un cas où Prévert n'est pas dans le générique. lyrique, mais à entendre, on voit bien quand même qu'il a bien touché au dialogue, Carole Rouet.
Oui, tout à fait. Ben, Prévert avait un bon mot qui est parfaitement adapté à cette situation, là, à ce film, Si j'étais le patron, c'était menteur comme un générique. Donc effectivement, très souvent, Prévert a pu apporter sa patte, sa création, ses idées dans des scénarios, mais n'est pas apparu au générique, alors à chaque fois pour différentes raisons. Mais effectivement, dans Si j'étais le patron, il n'y a aucun doute, Prévert est bien là. Et il y a d'ailleurs de grandes passerelles à faire entre Si j'étais le patron et Un oiseau rare, qui est le second film de Richard Potier, auquel Prévert a participé. Alors, ce sont des comédies...
On va en parler d'Un oiseau rare, puisqu'on va en entendre un extrait aussi, mais on est là dans un monde qui est déjà très prévertien, c'est-à-dire le héros, c'est un ouvrier, les patrons, il faut s'en défier, ils sont un peu soit truands, soit ridicules, et on est dans cet univers de la communauté prévertienne du monde ouvrier tout de suite.
Oui,
ça, c'est une conséquence de son travail avec le groupe Octobre, de cette troupe d'agit-prop dans les usines.
Oui, bien entendu. Alors, entre 1932 et 1936, Prévert va participer et va apprendre à écrire, en quelque sorte, pour le théâtre et pour le groupe Octobre, cette troupe de l'agit-prop, de l'agitation propagande. Et il est évident que dans ses premiers scénarios réalisés, et notamment dans Si j'étais le patron, il y a une grande proximité. C'est-à-dire qu'on a cette communauté, effectivement, cette notion de solidarité qui est absolument capitale pour Prévert, parce que là, évidemment, avec cette somme d'argent, s'il la divise, ils ne font rien, alors que tous ensemble, ils sont forts. Et c'est une thématique préversienne extrêmement forte. Et là, le fait que ça se déroule aussi dans une usine, à l'instar des pièces, des sketchs, des scénettes que Prévert écrivait et qui étaient jouées en lien avec l'actualité, en lien avec les grèves dans les usines et dans la rue, ce n'est évidemment pas innocent.
Alors, autre rareté, vous l'aviez annoncé, Un oiseau rare, là on est plutôt dans les bureaux des patrons.
Messieurs, si le président a participé au concours, c'est qu'il désire avoir le prix. Mais vous ne cherchez pas à comprendre, le président, c'est le président. Eh bien, donnons-lui le premier prix et le second à M. Berthier. J'espère que nous sommes tous d'accord. D'ailleurs, vous savez, ce slogan n'est pas si mal que ça. Il y a une idée là-dedans.
Bien sûr, une idée stupide.
Bonjour, messieurs.
Monsieur le Président, mais nous ne comptons pas sur vous.
Très honoré, Monsieur le Président.
Et comment allez-vous, Monsieur le Président?
Merci. J'ai très bien dormi. Seulement, comme j'ai rêvé que je dormais mal, ça revient exactement au même. Je vous en prie, messieurs.
Vous arrivez juste à temps pour connaître le résultat du concours.
Je vous écoute, messieurs.
Nous avons retenu deux slogans particulièrement brillants.
C'est une pièce qui manquait à ma collection.
Ça s'appelle Adolphe.
Le deuxième prix est décerné à M. Berthier pour son slogan « La nouvelle lampe, petit buis, c'est le soleil de minuit ».
Eh bien, c'est très gentil, ça. C'est très gentil, j'aime beaucoup ça. On va envoyer le garçon qui a fait ça. Au revoir, messieurs.
Non, pardon, monsieur le président. Et le premier prix?
Ah, il y a aussi un premier prix?
Eh oui.
Quelque chose d'extraordinaire, de la publicité pure.
Une trouvaille de poète. Nous ne connaissons pas le gagnant, mais c'est sûrement quelqu'un de la partie. C'est tout à fait génial.
Vous écoute.
Premier prix, monsieur Valentin Fortichet. Pour le slogan, la lampe, petit buis, eh bien c'est du joli.
Ah bah c'est du joli, une trouvaille de poète. C'est donc Un oiseau rare de Richard Potier, un film de 1935. Alors là, c'est vraiment le Prévert burlesque qu'on découvre, qui est pas très loin de la comédie américaine. C'est, par anticipation, ça ressemble un peu au Gros lot de Preston Sturges. C'est une histoire de slogan à trouver et on croit avoir gagné, on n'a pas gagné. Et puis ça part dans tous les sens. Ça vient des goûts de cinéma de Prévert aussi. On sait qu'il allait beaucoup au cinéma, qu'il adorait les Buster Keaton, le cinéma américain, après avoir aimé Louis Feuillade et son Fantomas qu'il avait découvert lui au moment où ça sortait.
Oui. Pour Un oiseau rare, effectivement, je pense que c'est un film assez biographique avec beaucoup de réminiscences. Alors, des réminiscences cinématographiques, ça c'est évident, et à aller chercher du côté du burlesque. Prévert a été très très marqué et est tombé amoureux très très jeune, effectivement, de Buster Keaton, de Max Sennett, d'Arbuckle, etc. Donc, il y a véritablement comme ça une verve assez caustique, aussi un rythme assez effréné, quelque chose qui ne s'essouffle jamais et qu'on retrouve dans Un oiseau rare. Et puis l'autre réminiscence, à mon avis, elle est liée à son expérience, certes furtive, mais à son expérience tout de même, dans une agence de publicité. Parce que quand Prévert est jeune et sans le sou, c'est Jean Orange qui, pour l'aider, autre scénariste, Jean Orange décide de lui proposer une place dans l'agence de publicité d'Amour, dans laquelle il travaille également. Et en fait, Prévert se rend dans cette agence, apprend effectivement l'existence de slogans et l'existence de ces métiers, mais il ne restera pas parce qu'il est évidemment trop libre, trop rebelle pour essayer d'entrer dans les codes publicitaires et financiers de ce type d'entreprise. Donc je pense qu'effectivement, dans un oiseau rare, il y a une certaine similitude entre le personnage interprété par Pierre Brasseur et Prévert, qui a presque 30 ans et fait cette expérience de la publicité.
Alors là où Prévert est très moderne, c'est qu'il pense tout de suite en images. On a parlé de sa méfiance face à l'arrivée du parlant. Alors lui, il n'est pas du tout dans la tradition de l'époque des scénaristes dialoguistes qui se prennent pour des grands écrivains psychologiques ou pour des auteurs de théâtre. Il faudrait décrire comment écrit Prévert, ces fameuses grandes planches qu'on a vues exposées dans les dernières années, où il pense en images.
Oui, alors Prévert, effectivement, on dit souvent que c'est un homme de mots, mais je pense que c'est un homme d'images avant tout, et vous l'avez d'ailleurs souligné dans la présentation à juste titre. Et on peut en avoir la preuve, si besoin, en étudiant avec une sorte d'analyse génétique ces brouillons scénaristiques. Parce qu'en fait, ce que fait Prévert quand il commence à créer un scénario, c'est qu'il prend deux feuilles de Bristol très grandes, qu'il attache ensemble pour se faire un grand tableau, un grand support. Et en fait, il a véritablement une méthode qu'il a créée très très tôt, hein, parce qu'on a déjà des témoignages de Claude Autant-Lara vers 1933, au moment de l'écriture de Ciboulette, qui nous explique comment Prévert travaillait. Et il quadrille en fait son support avec des lignes horizontales. Il commence par faire ça. Et que fait-il? Il dispose sur ces lignes horizontales, qui constituent une sorte de portée, non pas des notes de musique, mais des personnages. Et il va des personnages les plus importants jusqu'aux personnages les moins importants, les personnages secondaires, qui sont très présents chez Prévert, notamment parce que de manière très pragmatique, Prévert aimait bien faire travailler ses amis qui étaient comédiens. Donc plus il crée de personnages secondaires, plus il peut placer sa bande à Prévert et ses copains, parce que l'amitié, c'est très important. Donc voilà, il dispose ses personnages sur la gauche de sa page qu'il a, donc sur laquelle il a tracé ses lignes horizontales, et il va commencer par caractériser ses personnages. Alors certes, il le fait avec des mots, ça peut être des qualificatifs très courts, con, impuissant, intelligent, etc. Et déjà des bribes de dialogue qu'on voit apparaître dès ce premier stade, dès ce premier brouillon.
Oui, c'est là que c'est très important. Le dialogue fait partie, avant même l'écriture du scénario, d'une certaine façon, de l'écriture. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on l'appelle dialoguiste. Il y a ce Exactement. Mot fameux, il n'y a pas d'arbriste quand un peintre fait un paysage.
Exactement, je trouve que l'analogie est très, très criante. Il n'y a pas un peintre qui va peindre le décor et puis un autre peintre qui viendrait peindre les arbres et qui serait l'arbriste. Et ben pour Prévert, c'est la même chose. Quand il écrit un scénario, il ne peut pas dire associer la structure narrative des dialogues. Et c'est sans doute pour ça aussi que ça fonctionne si bien. Donc c'est dès ce stade scénaristique, il commence par créer les dialogues. Et c'est d'ailleurs très intéressant, hein, parce qu'on peut constater pour Les Enfants du Paradis, par exemple, qu'il y a déjà des bribes de dialogues qu'on retrouvera exactement de la même manière dans le film. Donc des mots pour caractériser ces personnages, mais aussi des dessins. Ce sont des planches scénaristiques qui sont extrêmement visuelles. Prévert commence à envisager les visages, les accessoires des personnages, mais aussi les décors. Souvent en collaboration et en amitié avec son ami Alexandre Trenner d'ailleurs. Donc il y a cet aspect visuel qui est présent dès le départ. Le storyboard n'existe pas encore, mais on pourrait dire en quelque sorte que Prévert a un peu inventé le storyboard.
Bonjour, monsieur Lange.
Bonjour. Ah, c'est gentil d'apporter mon linge. Parce que le linge, n'est-ce pas?
Ouh, dites-donc, vous n'avez pas l'air très réveillé. Combien d'heures avez-vous dormi cette nuit?
Deux ou trois. Oh, je sais pas. Quand j'écris, c'est comme si je dormais.
Oh, oui, vous êtes somnambule, quoi.
Ouais, enfin, ça fait voyager, toujours.
Oui, hein.
Tenez, venez voir ça. Ici, vous avez le désert de la mort.
Où?
Ici, la frontière du Mexique. Et tout ça, l'Arizona.
Ah oui, l'Arizona, oui.
Là-bas, des outlaves. Des bandits qui détroussent le pauvre monde. Là-bas, la vie est dure, effroyable. C'est la lutte au couteau.
Et la vie, dit, comment est-elle? Mais le pauvre monde, qu'est-ce qu'il détrousse?
Non, je sais pas, moi je sors jamais. Enfin, rarement.
Ah, vous savez ce que vous êtes, l'ange? Ah ben, vous êtes un rêve tout debout. Enfin, Vous êtes bien gentil, hein. Ah, tenez, voilà votre linge.
Oh, ben, vous donnez pas la peine.
Oh, il y a 4 chemises, une demi-douzaine de mouchoirs, 3 paires de chaussettes, vous voyez. Voilà.
Oui, oui, c'est tout.
Dites donc, vous êtes rudement adroit. Où avez-vous appris ça?
Ah ben, à la campagne, quand j'étais enfant. Je vivais avec les chevaux, moi.
Ah oui?
Ah oui, à la campagne. Il y avait du soleil. Il y avait de la pluie aussi, bien sûr.
Ah, la campagne, le soleil.
Ah, monsieur Lange, vous êtes un rêve tout debout, Florel et René Lefebvre, Valentine et Amédée Lange, dans Le crime de Monsieur Lange, bien entendu. Alors voilà un film conçu autour d'un décor, précisément, et de personnages. Cette cour d'immeuble avec l'atelier des lingères d'un côté, l'imprimerie à l'étage, et tous ces personnages qui tournent autour. Et on entend cette langue de Prévert au cinéma, cette langue populaire, des dialogues qui semblent improvisés alors qu'ils sont extrêmement ciselés. Hein. Il n'y a pas du tout la spontanéité de l'écrivain de bistrot, comme vous dites. C'est très travaillé. Et avec, vous l'avez dit, il part de ses personnages quand il écrit son scénario, et Charlotte Garçon, évidemment, on parle de Jean Renoir, vous ne pouvez pas ne pas vous immiscer dans la conversation. Il donne presque l'impression d'un documentaire sur les personnages, comme si les personnages étaient là et que la caméra se contentait de les suivre. Évidemment, tout cela est très écrit.
Oui, c'est-à-dire que c'est là qu'on voit que c'est très important tout de même le cinéaste avec qui il travaille. C'est-à-dire qu'on dit qu'on vient de montrer que Prévert n'était pas seulement dialoguiste et qu'en fait il avait déjà une conception et du décor et des acteurs. Ce goût pour les acteurs, il le partage avec Jean Renoir, mais effectivement, selon qu'il travaille avec Renoir ou avec Carné, on entend que c'est quand même pas la même matière sonore. Hein. Et Renoir va dans le même sens que lui, c'est-à-dire le sens de la vie, et de l'amour de l'acteur, et de laisser les acteurs, par sa mise en scène, véritablement travailler, j'allais dire, et donc vivre devant la caméra. Donc j'ai l'impression qu'avec Renoir, ils vont dans le même sens. Mais tout de même, alors je veux pas me faire l'avocate du diable, mais il me semble que parfois, dans d'autres films, et là c'est pas le cas dans Monsieur Lange, mais on sent ce côté un peu publicitaire de la formation de Jacques Prévert. Et Monsieur Lange est assez touchant parce qu'il arrive à ne pas donner cette impression de bon mot en permanence qu'il y a dans d'autres films écrits par Jacques Prévert. Et en même temps, il parle de la publicité. Hein, de même qu'on parlait tout à l'heure d'une histoire de slogan, de concours avec des slogans. Là aussi, il est question de ce qu'on fait du langage. Donc il y a une espèce de réflexion toujours sur le langage tel qu'il peut être objectivé, tel qu'on peut le faire circuler, on peut le vendre, et comment ne pas se vendre aussi quand on vend ses mots. Et c'est une question évidemment qui doit toucher Prévert très personnellement.
Carole Rouet.
Oui, alors, bon, évidemment, il y a beaucoup d'éléments avec lesquels je suis parfaitement d'accord, et je trouve qu'il y a une vraie symbiose dans le crime de Monsieur Lange, effectivement, entre la manière dont Jean Renoir va filmer et être en parfaite adéquation avec les mots de Prévert. Il y a quelque chose là d'assez unique qui s'est produit pour Le crime de Monsieur Lange. Par contre, contrairement à ce que vous disiez, effectivement, Prévert travaille beaucoup, hein, il n'y a pas d'improvisation, mais pour Le crime de Monsieur Lange, c'est un des films qui s'est déroulé un petit peu d'une autre manière.
Et à cause de Jules Berry notamment, voilà. Qui a un peu du mal quand il est sous l'emprise de certaines boissons à se souvenir de tous les mots. Et d'ailleurs, ça donne des improvisations formidables.
Et ça devait pas être Pierre Brasseur, le rôle de méchant joué par Jules Berry, parce qu'on l'imagine très bien.
Je me souviens pas, mais je ne pense pas, mais je peux me tromper. Par contre, sur cette écriture, c'est vrai que pour une fois, Prévert, qui ne se rendait pas sur les plateaux, est venu assez régulièrement sur Les crimes de Monsieur Lange. Et il y a des répliques comme ça qui ont été adaptées, écrites plus dans l'urgence. Mais voilà, il y a encore une fois cette symbiose pour ce film qui ne se reproduira pas parce que...
Alors comment ça se fait? Pourquoi est-ce que Renoir et Prévert ne travaillent plus ensemble? C'est quand même inouï, ce film est une réussite absolue et plus jamais ils ne travailleront ensemble.
Et on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure et sur l'écriture très visuelle de Prévert qui pouvait dans une certaine manière empiéter sur le travail du réalisateur. Et en fait, il y a eu un autre projet, en l'occurrence une partie de campagne, c'est-à-dire que quand Renoir a arrêté le tournage et s'est retrouvé avec ses rushs, par l'intermédiaire du producteur Pierre Bromberger, ils ont demandé à Prévert d'utiliser ses rushs et d'écrire un long métrage, un scénario complet qui permette la réalisation d'un long métrage. Ce que Prévert a fait. Et il l'a soumis à Renoir. Alors effectivement, on était très loin de l'atmosphère d'une partie de campagne. Prévert avait écrit un scénario extrêmement cru, extrêmement noir, avec même des plaisanteries scatologiques, donc très loin de la partie de campagne qu'on connaît aujourd'hui. Et Renoir a refusé ce scénario. Et il aurait dit justement à ce moment-là qu'il ne voulait plus travailler avec Prévert, parce qu'avec Prévert, il n'avait plus rien à faire.
Ce qui est un beau compliment en même temps.
Bien sûr, mais voilà aussi pour revenir sur cet aspect visuel et une des explications de leur non-collaboration ensuite.
Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ?
Je suis venu vous tenir compagnie parce que, au fond, je sais que vous n'aimez pas boire seul. Une cigarette ?
Non, merci.
Moi non plus. Qu'est-ce que vous lisez, là ?
La vie d'Albert Durer, un artiste génial.
Ça vous intéresse, la vie des autres ?
Forcément, puisque la mienne est ratée.
De quoi vous plaignez-vous ? Il me semble que vous avez les moyens de vivre largement.
Vivre largement ?
Non. Je ne suis pas curieux, mais j'aimerais savoir ce que vous faites de votre argent.
Vous voyez ces reproductions d'Albert Durer ? Eh bien, ce ne sont pas des reproductions. Ce sont des originaux. Voilà ce que je fais de mon argent. D'admirables œuvres d'art, d'authentiques chefs-d'œuvre.
Je n'aime pas les œuvres d'art, ça ne sert à rien.
Comment vous osez dire une chose pareille ?
Attention, attention. Je vais faire une petite partie.
Si vous voulez. Vous croyez vraiment que les œuvres d'art, ça sert à rien ?
À rien, à rien, à rien. Une fois que c'est accroché au mur, c'est fini, c'est figé.
Hein ?
Je suis un homme simple. Et j'aime les objets simples et amusants. Tenez, par exemple, un canif, une boîte de lumettes, ça, ce sont des objets simples, amusants. Avec un canif, on peut tailler un crayon. Avec une boîte d'allumettes, on peut allumer le feu. Avec un canif, on peut aussi égorger quelqu'un. Avec une boîte d'allumettes, on peut incendier une maison, une forêt.
Ça pourrait être Lassner, ce n'est pas encore Lassner, c'est Robert le Vigan, César le Passe-Muraille dans Les Disparus de Saint-Agile, Christian Jacques, 1938, face au professeur de dessin et faussaire Lemel, Michel Simon. Mais cette revendication presque artistique, ce manifeste artistique donné par César le Passe-Muraille, ça pourrait être celle du poète Prévert, hein. Lui, il est plutôt du côté des canifs et des boîtes d'allumettes. Sa langue, ce sont les mots simples à qui on donne une valeur voilà, qui les dépasse presque.
Oui, mais qui ne sont pas si simples que ça, c'est-à-dire voilà. Qu'il y a quand même différents niveaux de lecture, ça peut être lisible par un certain nombre de personnes avec une culture différente. Et puis, hein, pour revenir sur cet échange, Prévert, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible à l'art, à l'œuvre d'art. Alors, ça peut être de l'art brut, si on retourne du côté du canif et de la boîte d'allumettes, mais c'est vraiment pour lui quelque chose de capital qui l'aide à respirer, qui l'aide à rêver. Ce n'est pas pour rien s'il est entouré d'amis peintres et artistes, si l'un de ses meilleurs amis c'est Picasso, si Miro est très proche, etc. Donc moi j'aurais plutôt mis Prévert du côté de l'autre personnage.
Mais en fait
il y a un peu d'ambiguïté, mais c'est cette idée de reconnaissance et éventuellement d'intellectualisme qui est rejeté, hein, bien sûr.
Et du grand art tel que labellisé par l'Académie. Mais c'est ça qui est très fort chez Prévert, c'est qu'il est toujours dans tous ses personnages, c'est-à-dire même les personnages les plus odieux. On parlait de Jules Berry dans Crime de Monsieur Lange, c'est un personnage formidablement vivant et habité. Et puis c'est aussi un film avec des enfants, et évidemment Les Disparus de Saint-Agile, et Prévert est résolument du côté des enfants. Il y aura ce projet de film avec Marcel Carné sur les enfants révoltés du bagne de Belle-Île-en-Mer en 1934. Dès 1936, il écrit pour Carné L'île des enfants perdus, ça ne se fait pas, ça ne se finance pas. En 1947, ils vont tourner La Fleur de l'âge avec Serge Reggiani, Anouk Aimé, Arletty, Martine Carole, enfin des distributions extraordinaires, un tournage suspendu. Après 3 mois, les rushs sont perdus. Vous espérez sans doute les retrouver un jour.
Bah écoutez, je dois avouer que je ne suis pas pessimiste, mais je n'espère plus parce que je les cherche depuis très longtemps et je ne les ai pas retrouvés. Et puis, bon, avec des films en nitrate de 1947, ça commence à devenir compliqué, mais sait-on jamais. En tout cas, on a retrouvé à peu près 600 photos du tournage il y a quelques années et ça, c'est évidemment une pépite, une merveille. Et
elles ont été éditées en livre chez Gallimard, hein, il me semble.
Tout à fait, une soixantaine, mais il y en a encore d'autres.
En 2013. Alors, heureusement, avec Carné, évidemment, ils arriveront à réaliser quelques scénarios, et pas des moindres.
Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous guettez tous ? Hein ?
Qu'est-ce qu'il a ? Il est devenu fou ?
Il va se foutre par la fenêtre ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Il est à sa fenêtre.
Mais qu'est-ce qui se passe, hein ?
Je suis pas une bête curieuse, moi ! Qu'est-ce que vous attendez ? Ah, vous attendez que je saute ? Ah ! Un assassin reste intéressant, un assassin. Je suis un assassin. Mais oui, je suis un assassin. Mais les assassins, ça court les rues. Il y en a partout. Partout, tout le monde tue. Tout le monde tue un petit peu seulement. On tue en douceur, alors ça se voit pas. C'est comme la sable, c'est en dedans. Là, en dedans. Alors foutez le camp. Foutez le camp, allez-vous-en. Rentrez chez vous, vous lirez ça dans le journal. Ça sera imprimé, tout sera imprimé. Tout. Et puis vous le lirez, et puis vous le croirez. Parce que dans les journaux, on raconte tout. Hein? Ils sont bien renseignés, les journaux. Allez, foutez le camp, allez, vous allez attraper froid. Dépinez-vous. Laissez-moi seul. Tout seul, vous entendez? Je ne demande rien à personne, moi je veux qu'on me foute la paix. La paix. Allez, dépinez.
Oh,
écoute,
mais c'est
pas tout seul, puisque je
suis
tout seul.
Gardez-moi seul là, maintenant. François!
Oh, je suis fatigué, laissez-moi. François!
François!
Et j'ai plus confiance. C'est fini. Fini, vous entendez?
François, t'obstine pas. Ça sert à rien. Il y a des gens qui ont tué déjà, ils en sont pas morts.
Descends, on verra après. Eh, dites donc les gars, il y a une place à prendre. Une bonne petite place, un bon petit boulot. Avec des heures supplémentaires. Alors allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Un bonheur, là, tout un petit bonheur. Hein?
François, c'est évidemment Jean Gabin dans Le Jour se lève de Marcel Carné. Charlotte Garçon, c'est l'apogée du mythe Gabin et en même temps sa chute.
Oui, c'est-à-dire, je crois que c'est vous, Carl Orway, qui le citiez dans votre biographie. Il dit, je crois que c'est même un poème, peut-être, Jacques Prévert, sur Jean Gabin, l'évidence d'un être, un être humain qui joue son rôle publiquement. Et on voit même une sorte de ressemblance physique entre Jacques Prévert et Jean Gabin. Enfin, Jean Gabin serait la version, disons, beau gosse de Jacques Prévert. Et ce que j'ai appris en vous lisant aussi, c'est effectivement que Jacques Prévert a eu, par exemple, moi, ce qui me reste, j'ai un peu honte de dire ça, mais ce qui me reste, parfois des films, que ce soit Le Jour se lève ou Le Quai des Brumes, ça peut être un détail, et y compris des détails plastiques. Et par exemple, cet imperméable transparent du Quai des Brumes, j'ai appris en vous lisant que l'idée en venait de Jacques Prévert. Donc c'est parfois effectivement pas seulement ces dialogues qu'on entend, mais dans les dialogues qu'on entend, me semble-t-il, là, on entend quand même un trait stylistique de Jacques Prévert qui est cette répétition. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un langage parlé, vous le disiez, quotidien, et en même temps travailler avec des sortes d'anaphores, et c'est ça qui donne ce parler Prévert dont parlait Jean Orange, c'est-à-dire que nous, en regardant ces films petits, etc., on pense peut-être que dans les années 30 on parlait comme ça parce qu'il y a de l'argot, mais en réalité je pense que on se fait des idées sur ce qu'était la réalité de cette langue, et que ces idées, elles nous sont données par Jacques Prévert, en fait.
Carole Rouet.
Oui, je suis parfaitement d'accord. Encore une fois, cette impression là qu'on peut avoir de naturel, bon, évidemment la langue est extrêmement travaillée. Et puis, j'y reviens, on n'a pas voulu lui coller l'étiquette poète, mais dans une autre acception, et celle voilà, d'action, de création et de créateur extrêmement innovant, il est un poète. Donc il a l'habitude de jouer avec les mots, de jouer avec les sons, avec le rythme. Et effectivement, il y a des assonances, des allitérations, des sortes de leitmotivs, de répétitions. Et c'est scandé, c'est rythmé, et c'est ce qui fait aussi que ça entre parfaitement dans notre esprit et que ça reste. Et ces détails que vous citiez comme le petit imperméable transparent de Michel Morgan, effectivement, il vient aussi de Prévert, parce que Prévert envisage, comme on l'a vu, les accessoires, tous ces petits détails qui ont finalement ancré, caractérisé parfaitement ces personnages. Et là, le fait qu'il soit transparent nous renseigne aussi sur la personnalité de cette jeune femme, bien entendu.
Et il envisage pas seulement les costumes et les personnages, il envisage aussi la bande-son. Il met, dès l'écriture du scénario, on va entendre un train passer, les bruits de la rue, etc. Alors à partir du succès du Quai des Brumes et à cause de Macorlan, on va finir par parler de réalisme poétique, la fameuse appellation qui devient l'invention de Prévert et de Carné, alors que voilà, ça vient plutôt sans doute de Macorlan au départ, mais il était confortable avec cette appellation de réalisme poétique, c'est quelque chose qu'il revendiquait.
Écoutez, je n'en sais absolument rien, je ne pense pas qu'il se soit livré sur le sujet. Je pense qu'il était complètement détaché de ce genre de choses, mais en même temps ça lui correspond parfaitement, parce que Prévert, c'est quelqu'un qui n'aime pas les étiquettes, n'aime pas les frontières, aime éclater et effacer ses frontières, justement. Et effectivement, dans ses films, il y a toujours plein de mélanges. Donc dans un film qui peut être extrêmement noir, extrêmement dur, comme Les Portes de la Nuit par exemple, on va avoir des petites bulles poétiques, des déflagrations comiques et un mélange des genres et des registres qui est constant. Donc réalisme poétique, c'est exactement ça, c'est ce mélange des registres dans les films de Prévert, et je trouve que ça lui correspond pleinement.
Alors avec Jean Gabin, toujours, c'est ce qu'on apprend en vous lisant, Carole Rouet, dans tous ses films non réalisés, il y avait le projet d'un film où il conduirait un train. Le film était prévu pour Marcel Carnet, puis pour Jean Grémillon, ça devait s'appeler Train d'enfer, et puis les mêmes producteurs, les frères Hakim, finissent par faire un autre film avec un train, ça sera La Bête humaine avec Renoir, donc pas de regret, on va quand même essayer de recréer la magie du Quai des Brumes, on prend le même scénariste et on reprend les mêmes stars.
Je suis très heureuse que vous m'ayez emmené avec vous. C'est tout.
Eh ben, on n'est pas difficile, une petite promenade comme ça sur la plage et puis vous voilà heureuse comme les enfants.
Ah, je voudrais bien être encore comme les enfants. Quand j'étais petite, c'était tellement simple. J'étais heureuse, je riais, j'étais malheureuse, je pleurais. Et maintenant?
Quoi maintenant?
Oh, maintenant c'est plus pareil. Je suis heureuse, malheureuse, tout est mélangé, on ne s'y retrouve plus. Une étoile de mer.
Elle a dû tomber cette nuit. Comment vous appelez-vous?
Et vous?
Moi? André.
Moi, je m'appelle Catherine. C'est mon nom de baptême, mon prénom. Ils m'ont tous appelé comme ça. Mon père, ma mère, toute la famille. Catherine, ne met pas les coudes sur la table. Catherine, dis bonjour. Catherine, dis merci. Merci qui, Catherine? Oh, ça me sifflait dans les oreilles. Mais moi, on m'a même gerillé. Je me disais, tu ne t'appelles pas Catherine, c'est eux qui t'appellent comme ça. Alors, je me suis trouvé un nom, un autre.
Pour vous toute seule?
Oui, et puis je pensais, un jour, tu aimeras un garçon qui t'aimera et tu lui diras ton vrai nom.
Et vous l'avez trouvé, ce garçon?
Non, j'ai connu des hommes. Un qui est mort et puis mon mari.
Et alors?
Alors ils ont fait comme les autres, ils m'ont appelé Catherine.
Ah. Je vais chercher les clés pour visiter.
Où est la maison?
Là-haut, toute seule.
Quelle drôle d'idée de visiter des maisons.
On apprendra plus tard comment Catherine s'est auto-baptisée. Catherine, c'est Michel Morgan. Elle est avec André Jean Gabin sur la plage. C'est Remorque de Jean Grémillon, un film au tournage assez compliqué puisque la guerre est arrivée entre-temps. Un film commencé avant-guerre et sorti pendant la guerre. Il y a une belle rencontre entre Grémillon et Prévert. Ils se ressemblent beaucoup, à une exception près quand même, la religiosité du réalisateur, ce qui donnera une fin que Prévert n'aimera pas beaucoup, on dira.
Oui, effectivement. Ils se sont d'ailleurs un petit peu fâchés à la fin de ce tournage parce que Grémillon avait aussi ajouté de la musique religieuse et effectivement, ce n'était pas pour plaire à Prévert, mais Prévert avait une grande estime de Grémillon. Il trouvait que c'était un grand cinéaste et à juste titre et que c'était le seul à avoir du style, disait-il. Pour rebondir sur l'extrait que vous avez diffusé, je trouve que c'est le moment de dire à quel point les personnages féminins chez Prévert.
J'allais y venir. On a parlé des ouvriers, on a parlé des enfants, mais il y a les femmes.
Les femmes chez Prévert. Exactement.
En tout cas, il ne les montre pas comme elles sont montrées dans le cinéma dominant de l'époque, Charlotte Garçon.
Oui, c'est ça. Mais quand je dis minorité, c'est parce qu'il me semble que ça vient quand même de la même approche de lutte des classes. Là, c'est la lutte des sexes qui se joue. Alors, sauf qu'effectivement, il y a un lyrisme chez Jacques Prévert. Du coup, ça, c'est à travers des histoires amoureuses. Plutôt que des femmes qui seraient vraiment détachées, libres, indépendantes. Ça se joue quand même à chaque fois dans la relation amoureuse, mais ça peut être une relation adultère, ça peut... Voilà. Et ce que je trouve beau dans Remorque, effectivement, c'est la formation documentaire de Grémillon qui ressort parce que toute cette histoire de bateau, de remorque, voilà, ça donne lieu à des très belles scènes aussi. Et donc, effectivement, le côté très, très styliste de Grémillon et ce lyrisme amoureux, on voit que Prévert, en fait, ce qu'il aime, c'est quand même écrire, j'ai l'impression, c'est quand même écrire des scènes d'amour.
Parfaitement, de toute façon, ça, lui qui se livre assez peu le dit très explicitement. Hein, ce qui l'intéresse, c'est les histoires d'amour et c'est les femmes, parce qu'il explique qu'il préfère les femmes aux hommes. Et effectivement, il essaie de les défendre, de créer des personnages qui sont extrêmement libres, extrêmement forts, pas du tout dans la lignée misogyne, comme il l'explique, du cinéma de l'époque. Et ce sont des personnages, mais à part entière, qui ne sont pas des faire-valoir des personnages personnages masculins. Donc ça, effectivement, c'est très important. Et en même temps, il y a toujours, comme chez Prévert, cette espèce de mélange, d'opposition entre d'un côté quelque chose de très lumineux au niveau de l'amour et de l'histoire d'amour, et puis une sorte d'aporie du couple, de quelque chose de beaucoup plus sombre. Et dans Remords, qu'on sent bien, effectivement, cette difficulté de faire durer l'amour, un peu à l'instar des réflexions surréalistes, justement, sur l'amour fou.
Quand j'étais malheureux, je dormais, je rêvais. Mais les gens n'aiment pas qu'on rêve. Alors, ils vous cognent dessus, histoire de vous réveiller un peu. Heureusement, j'avais le sommeil dur, plus dur que l'écho. Et je leur échappais en dormant. Oui, je rêvais. J'espérais. J'attendais. C'est peut-être vous que j'attendais.
Déjà.
Pourquoi pas? Je vous voyais sans doute dans mes rêves. Vous ne souriez pas. Aujourd'hui, en me jetant cette fleur, peut-être m'avez-vous réveillé pour toujours.
Quel drôle de garçon vous faites.
Comme vous êtes belle.
Je ne suis pas belle, je suis vivante, c'est tout.
Vous êtes la plus vivante. Jamais je n'oublierai cette nuit. Et la lumière de vos yeux.
Oh, la lumière, une petite lueur, comme tout le monde. Tenez, regardez. Les petites lueurs, les petites lumières de Ménilmontant. Les gens s'endorment et s'éveillent. Ils ont chacun cette lueur qui s'allume et qui s'éteint. C'est peu de choses, tout ça. Quand je pense que je ne peux même pas reconnaître la chambre où j'habitais avec ma mère quand j'étais petite.
Vous habitiez Ménilmontant ?
J'y suis née. Et j'y ai vécu heureuse, très longtemps, très heureuse. Pourtant, ma mère était pauvre et mon père l'avait quittée. Elle travaillait chez les autres, blanchisseuse. Elle m'aimait, je l'aimais. Elle était belle, elle était gaie. Elle m'a appris à rire, à chanter. Et puis elle est morte. Et tout a changé.
Et vous êtes restée toute seule?
À 15 ans, par ici, une fille qui a grandi trop vite. Ne reste pas seule très longtemps.
Je vous en prie, ne soyez pas triste, ça me serre le cœur.
Triste, moi? Mais je suis gaie comme un pinson.
J'aime votre rire.
Moi aussi, je l'aime. Sans lui, qu'est-ce que je deviendrais?
Et moi, sans vous? Dites-moi votre nom.
Garance.
Garance.
Mais vous tremblez. Vous avez froid?
Je tremble parce que je suis heureux. Je suis heureux parce que vous êtes là, tout près de moi. Je vous aime. Et vous, Garance, aimez-vous?
Parlez comme un enfant. C'est dans les livres qu'on aime comme ça, et dans les rêves. Et dans la vie.
Les rêves, la vie, c'est pareil. Ou alors ça vaut pour la peine de vivre. Et puis qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, la vie? C'est pour la vie que j'aime. C'est vous.
Les rêves, la vie, c'est pareil. Baptiste de Bureau, Jean-Louis Barrault, face à Garance, évidemment, Arletty. On s'est gardé le plus connu pour la fin, Les Enfants du Paradis. Alors, pour le coup, voilà un film qui tourne, et malgré la complexité de son scénario, cette fresque extrêmement, extrêmement raffinée, tout tourne autour d'un personnage central. Et ce personnage central, c'est Garance, c'est une femme.
C'est Carole une femme, Romé. Très libre, justement, encore une fois. Oui, cette intrigue, la principale, effectivement, tout tourne autour de ce personnage. Et justement, ce qui est très fort aussi, je trouve, dans ce scénario, outre la beauté des dialogues qu'on vient d'entendre, et tout Prévert est là, et
c'est puis il y a ces clins d'œil avec ses poèmes. Il s'écoute très bien, hein. On Exactement, pourrait l'écouter tout entièrement sans voir les images.
Et on a des bribes de poèmes, hein, d'ailleurs, ce qui est le cas là, dans le dialogue qu'on a entendu, avec l'allusion à Dans ma maison, gay comme un pinson, etc. Mais ce que je trouve très fort, c'est que ce personnage qui est au centre du scénario et qui participe de l'intrigue principale est aussi au centre parce qu'il participe de toutes les intrigues secondaires et en fait il y a beaucoup d'intrigues satellitaires qui viennent se greffer sur cette intrigue principale et tout tourne autour du personnage et ça permet à Prévert de développer, de montrer des formes d'amour tout à fait différentes suivant évidemment les partenaires qu'elle peut avoir. Donc une réussite totale bien évidemment, Ces Enfants du Paradis.
Ah, c'est le film voilà, monument du cinéma français, c'est aussi l'acmé d'une certaine façon de faire du cinéma du duo Prévert-Carné et après il y aura le film problématique Les Portes de la Nuit, après ils arrêteront de travailler ensemble Et Prévert lui-même s'éloigne du cinéma, en tout cas du cinéma au cinéma. Il fera de la télévision avec son frère. Qu'est-ce qui fait que Prévert s'arrête à ce moment-là? C'est à cause du succès de Parole qui sort en 1946 ou c'est qu'il ne veut plus faire de compromissions avec un système qui ne lui convient plus?
Alors, il y a plusieurs raisons. Je vais vous donner ce qui me semble être les raisons principales. Mais il continue hein, quand même à faire du cinéma. C'est sûr que le cinéma ne devient plus son activité principale parce que Prévert va se mettre à faire par exemple énormément de collages et à écrire beaucoup de poésie. Mais il va continuer hein, quand même jusqu'à la fin de sa vie à tourner et aussi pour la télévision avec son frère Pierre Prévert. Hein. Pierre Prévert qu'on n'a pas évoqué, qui n'est pas malheureusement dans la rétrospective, mais je tiens avec insistance à dire que c'est un manque criant parce que le cinéma des frères Prévert est
c'est le cinéphile en fait.
Quand exactement. Voilà, quand ces films ressortiront, promis, on en reparlera.
D'accord. Du coup, j'ai perdu le fil.
Pourquoi est-ce qu'il s'arrête?
Voilà, il s'arrête effectivement de faire du cinéma son activité principale à partir des Portes de la Nuit. Parce qu'en fait, Les Portes de la Nuit est un film qui a nécessité beaucoup d'argent, beaucoup de courage, beaucoup d'investissement. Et quand il sort sur les écrans, il est descendu par la critique. Et Prévert est très affecté, en fait, par ses critiques. Et il dit qu'il en a marre de passer des mois sur un scénario pour se faire descendre en quelques secondes par un critique. Et il s'éloigne un petit peu du cinéma.
Terrible la responsabilité des critiques, Charlotte Garçon.
Petits enfants d'Aubervilliers, vous plongez la tête la première dans les eaux grasses de la misère où flottent les vieux morceaux de liège avec les pauvres vieux chagrinés. Mais votre jeunesse vous protège et vous êtes les privilégiés d'un monde hostile et sans pitié, le triste monde d'Aubervilliers, où sans cesse vos pères et mères ont toujours travaillé pour échapper à la misère d'Aubervilliers, à la misère du monde entier. Gentils enfants d'Aubervilliers, gentils enfants des prolétaires, gentils enfants de la misère, gentils enfants du monde entier.
Merci Carole Rouet, on se quitte sur cette chanson des enfants interprétée par Fabien Loris sur une musique évidemment de Joseph Cosma pour le documentaire Aubervilliers, film tourné par Élie Lothar en 1946 sur un texte de Jacques Prévert. Vous nous en aviez parlé, Charlotte Garçon, dans Plan Large il y a un an lors de l'exposition Élie Lothar au Jeu de Paume. C'est un des films qu'on peut voir dans la rétrospective. Prévert fait son cinéma, 12 longs métrages et 5 courts, dont tous ceux dont vous avez entendu des extraits dans cette émission. C'est en salle et en version restaurée à partir de mercredi prochain. Et si vous voulez rencontrer Carole Rouet et ses étudiants du cours Jacques Prévert, un scénariste aux frontières effacées, ils présenteront les films tous les jours au cinéma Le Champeau à Paris. Votre livre Carole Rouet Prévert et le cinéma est paru aux nouvelles éditions dans la collection Le Cinéma des Poètes que vous dirigez. On renvoie également chez le même éditeur à votre biographie Jacques Prévert Une Vie. Et enfin, en attendant, sait-on jamais, l'édition scientifique avec variantes et analyse de ces projets de films non réalisés pour avoir un aperçu de ce continent enfoui. On rappelle la parution chez Folio de 3 scénarios inédits, Grand Matinal, Jour de sortie ou La Lanterne Magique et Au Diable Vert, ça s'appelle tout simplement Cinéma. Et c'est présenté par vous, Carole Rouet, et préfacé par un autre prévertologue émérite et éminent, notre cher Ntebin. En 1933, vous l'avez dit tout à l'heure, Jacques Prévert signe une adaptation tout à fait irrévérencieuse de l'opérette Ciboulette pour Claude Tanlara. La même année, de l'autre côté de l'Atlantique, Lubitsch réinventait le thème éternel du ménage à Troyes.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous trouvez que ça me ressemble?
Tout à fait.
J'ai l'air aussi bête que ça?
J'en ai peur.
Voyons, mademoiselle. Regardez ce nez.
C'est le vôtre. J'y peux rien.
Enfin, passons pour moi. Mettez-le lui. Vous l'avez bien arrangé. Mais ce n'est pas sa tête, ce n'est pas son crâne.
D'où je suis, c'est tout à fait ça.
Son maxillaire supérieur n'est pas aussi proéminent.
Au contraire, c'est ce qui ressort le plus.
Et le menton?
Exactement le sien.
Trop accentué.
Je le vois comme ça.
Et puis, comprenez, monsieur, que ceci est une caricature. Et dites-vous bien que le but d'un dessin ou d'une peinture n'est pas de reproduire une vulgaire photographie, mais de faire ressortir les caractéristiques d'un faciès, vous selon la personnalité de l'artiste, même en les exagérant. Oh, nuts!
Da-da-da-da-da-da! Well, baby, the name is Curtis.
May I present Thomas B. Chambers?
My name's Gilda Farrell.
Coming back to the subject of art.
Are you a painter?
Yes.
What did you say your name was?
Curtis.
George Curtis?
Yes.
C'est le tout début en version originale, en français dans le texte, de Sérénade à Troyes, la rencontre dans un compartiment de troisième classe d'un train dans le sud de la France, d'où les dialogues en français, entre une illustratrice pour la publicité, revoilà la publicité, Gilda, et deux artistes américains, bohèmes et tout à fait montmartrois, Tom, l'auteur dramatique, et George, le peintre, soit Miriam Hopkins, Frederick March et Gary Cooper. L'immoralité peut être amusante, mais pas assez pour remplacer la vertu à 100%. Et trois repas par jour, dira dans le film le comédien fétiche de Lubitsch, Edward Everett Horton, dans le rôle de l'ineffable Max Plunkett. L'immoralité, évidemment, chez Lubitsch, c'est délicieux, surtout dans cet éloge du trouble qu'est ce film, Sérénade à Troyes. Sérénade à Troyes, c'est Jules et Jim 30 ans avant, Charlotte Garçon, beaucoup plus drôle, évidemment.
Oui, alors effectivement, c'est pas un hasard si on est dans un train au début du film pour Paris, hein, Paris, Paris Paramount, comme disait Lubitsch, il dit je préfère Paris Paramount à Paris. France, parce que évidemment, il s'y passe des choses beaucoup plus intéressantes quand on reproduit, quand on reconstruit en studio Paris. Et on l'entend dans ce que dit la dessinatrice. Elle dit, mais finalement, une caricature, attention, c'est pas du tout la reproduction de la vie. Et c'est bien sûr aussi la conception du cinéma et singulièrement de Paris d'Ernst Lubitsch. Alors, il faut quand même dire, vous dites c'est le début du film, qu'on est à la radio et que donc on est obligé de débuter le début du dialogue, mais que ce film s'ouvre sur une scène entièrement muette. Vous savez que Lubitsch a commencé à toute une carrière en Allemagne muette, et il a gardé, c'est ça qui est beau avec les cinéastes de sa génération, vraiment quelque chose de comment raconter une histoire, mais beaucoup plus qu'une histoire en muet. Et donc en fait, quand le film commence, cette dessinatrice j'allais dire, parce que c'est vraiment le mot, les deux hommes qui sont endormis en face d'elle dans le train, et ils sont tellement beaux, peut-être, se dit-on, parce qu'on voit Gary Cooper et Frederick March, qu'elle les dessine. Donc il y a toute cette espèce de prémisse muette dans le film, mais qui pose en fait quelque chose de très fort, qui est, attention, ce film va ne parler que de désir, que d'érotisme, et que de la façon dont les uns regardent les autres, et de ce qu'ils peuvent faire ensemble, ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc c'est vraiment le centre, à mon avis, du film. Alors certes, c'est un film qui est adapté d'une pièce à succès de Noël Coward, mais me semble-t-il, on dit tout de suite, y compris dans cette première séquence, que enfin, ceci n'est pas une pièce de théâtre, justement. Parce que commencer par une scène muette, c'est justement aller à l'encontre, comme on le disait pour Jacques Prévert, du théâtre filmé, de quelque chose qui serait uniquement centré autour des dialogues.
Oui, le scénariste Ben Hecht te dira, je n'ai gardé de la pièce que le titre.
Exactement, c'est pas tout à fait vrai, mais en même temps, Lubitsch va complètement dans ce sens parce qu'il nous montre des gros plans, il nous montre ce que c'est que le visage de Gary Cooper qui dort et peut-être qui rêve, et peut-être même qu'il fait des rêves érotiques, sans doute, parce que sa main glisse sur le pied de Miriam Hopkins qui est étalée comme ça, juste à côté de ces deux hommes. Donc on voit très bien par le jeu du cadrage et du montage que ce wagon, ce compartiment déborde d'érotisme avant même que les gens se rencontrent. Donc vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses avant l'extrait du début. Et puis surtout, donc ce film-là, je dirais, et là encore ça rejoint ce qu'on a dit sur Prévert, pose ce personnage féminin comme étant celui qui veille, hein, puisque au début, les deux autres se font regarder. Et c'est important parce que, alors on peut dire, est-ce que Lubitsch est féministe ou pas? Je ne sais pas si le mot s'applique à ce moment-là à Hollywood pour Ernst Lubitsch, mais on sent quand même que c'est rare, y compris dans le cinéma français de l'époque, de mettre au centre le désir d'une femme. C'est tout de même elle qui les repère, qui les dessine au début. Elle est d'ailleurs en train de dessiner dans ce même cahier des dessins d'un caleçon pour une publicité qu'elle prépare. Donc voilà, tout ça est très, très, très explicite sur le fait que cette jeune femme va mener la danse dans Sérénade à Troyes. Et d'ailleurs, elle dit à un moment, cette Gilda, voilà, il m'est arrivé quelque chose qui arrive d'habitude aux hommes. C'est-à-dire que je suis amoureuse amoureuse de plusieurs. Et que pour les hommes, on accepte ça, parce qu'au bout d'un moment, voilà, ils passent quelques années à batifoler, et puis ensuite, ils se casent, mais c'est pas accepté pour les femmes. Or, les femmes, elles aiment les chapeaux différents, etc. Donc, on voit que, voilà, cette question des sexes, à la fois, de ce qu'on permet aux femmes, est complètement centrale dans ce film. Alors, pourquoi il s'appelle Design for Living, donc, en version...
Titre original.
Voilà, le titre original. Eh bien, parce que, à partir de ce désir qu'elle a pour ces deux hommes, et qui va être, bien sûr, tout à fait réciproque, parce que si on connaît Miriam Hopkins, c'est vraiment l'actrice, c'est l'une des actrices préférées de Lubitsch. C'est quelqu'un de délicieux, voilà, à la fois enfantin, enfin, bon. Et du coup, il n'y a pas de doute sur la réciprocité de cet amour, mais donc, il faut faire un programme. Il faut faire un programme de vie. Comment faire pour ménager ce désir, alors qu'on est dans un trouble, comme vous disiez. D'ailleurs, le film précédent de Lubitsch, c'est Trouble in Paradise, un trouble au paradis. Là, ce serait un peu trouble au paradis. Et donc, voilà, comment organiser du coup la vie de ces trois personnages dont les deux hommes sont quand même très bohèmes et essayent de percer dans le Paris, voilà, en tant qu'artiste, parce que Paris, c'est finalement la ville dans laquelle ce sont les coulisses de l'Amérique. Vous savez qu'à ce moment-là, en Amérique, on est encore en train d'éponger la crise de 1929. Or, Paris est vraiment posé comme une sorte de contre-champ dans lequel on n'est pas obligé de travailler ou de chômer. Il y a cet entre-deux qui serait la pratique artistique, le travail. Donc, comment faire un plan de vie pour pouvoir vivre ensemble? Et ben, c'est un programme qui est aussi, bien sûr, le programme narratif de Benecht et Lubitsch, et le programme aussi scénographique du metteur en scène Lubitsch.
Well, boys, it's the only thing we can do. Let's forget sex.
Okay, agreed. Maybe a bit difficult in the beginning,
but it can be worked out.
Oh, it'll be grand.
Save lots of time.
And confusion.
We're going to concentrate on work. Your work. My work doesn't count. I think both you boys have a great deal of talent, but too much ego. You spend one day working and a whole month bragging. Gentlemen, there are going to be a few changes. I'm going to jump up and down on your ego. I'm going to criticize your work with a baseball bat. I'm going to tell you every day how bad your stuff is until you get something good, and if it's good, I'm going to tell you it's rotten until you get something better. I'm going to be a mother of the arts.
Mais je vais critiquer vos œuvres avec une batte de baseball. Moi, ça me fait un peu rêver en tant que critique. Mais alors, on a entendu donc le mot sexe, et ce mot, hein, c'est vraiment, ça désigne bien le sexe, hein, et non pas le genre. Hein. Donc, ce mot va mettre en fait des décennies à revenir à Hollywood. On est en 1933, et le code de production d'autocensure des studios va vraiment être appliqué en 1934, à tel point que Serenade à trois ne va pas pouvoir ressortir en 1934. Donc, ce serment, ce qui s'appelle le gentleman's agreement, l'accord entre gentlemen que signent ces trois personnes, évidemment il est impossible de le tenir, et on le voit quand ils le font, puisqu'elle a un gros X, un dessin sur sa robe comme ça, dont on a l'impression qu'elle croise les doigts pour contredire ce qu'elle va dire. Et ce qui est beau dans le film, c'est que l'impossibilité de cohabiter sans passer à l'acte, c'est quelque chose qui du coup bien sûr produit une circulation du désir qui se déporte, comme souvent chez Lubitsch. Vous venez du pyjama dans la huitième femme de Barbe Bleue, par exemple, comme souvent, se déplace sur des objets. Et en l'occurrence, cet objet, c'est l'objet aussi du cinéaste et du scénariste, à savoir une magnifique machine à écrire qui sonne, même quand elle est rouillée, qui se remet à sonner encore. Donc voilà, on a vraiment dans Serenade à trois une sorte d'essence de ce qui était le pre-code, hein, cette période de, j'allais dire, de sexualité frénétique, parce qu'on sait que le couperet de la censure va tomber. C'est d'ailleurs un film dans lequel on n'arrête pas de se jeter sur des lits en arrière et de s'alanguir. Donc n'hésitez pas à vous affaisser dans vos fauteuils si vous allez voir ce film en salle.
Mm. Merci Charlotte Garçon, Sérénade à 3 d'Ernst Lubitsch. C'est à voir et à revoir, affaissé ou pas, en copie restaurée et en salle à partir de mercredi prochain. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Myriam Guillot. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, Plan large partira aux origines de la Lubitsch Touch. Nous serons à Berlin, où la 69e édition de la Berlinale s'est ouverte jeudi soir. Nous visiterons pour vous la grande exposition du Musée du cinéma de Berlin consacrée aux 100 ans de la UFA, le grand studio qui a produit Metropolis, Le Fosse de Murnau et donc les comédies d'Ernst Lubitsch dès 1918. Nous évoquerons aussi quelques films restaurés de la République de Weimar qui font l'objet d'une rétrospective à ce festival du film de Berlin. Ce soir à 22h, ne ratez pas Le Mauvais Genre de François Angelier qui sera consacré au grand cinéaste des monstres Todd Browning. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Irène Omelianenko.